Dis, c'est quoi la meilleure émission du moment?
Évidemment, maman, c'est Girl Power.
Je subis très mal les contraintes de toutes les choses qu'il faut faire tous les jours, régulièrement et de façon implacable.
Yo!
Girl Power!
Mais pas peur! Que de la bonne humeur!
Yo! Vous êtes bien sur Radio Qui Pique. Vous êtes bien avec Girls Power, une émission conçue et présentée par Dim. À la technique, il y a Pim. Aujourd'hui, je vous emmène avec le livre de la Rata Give It To Me, paru chez Flammarion en 2024, une thématique que je vais explorer en deux épisodes. Un premier consacré aux afro-américaines du blues et du rhythm and blues principalement, et un second réservé au rock, au rap et au punk. C'est un livre qui parle de musique populaire, de chanteuses de mauvaise réputation, de post-colonialisme, de féminisme radical et de sexe. Surtout de sexe, et c'est Virginie Despentes qui l'a traduit. La Rata est née à Saragosse en 1985. Elle devient tatoueuse à la fin de ses études aux Beaux-Arts. Elle collabore en tant qu'illustratrice avec des artistes queer et des maisons d'édition. Le projet Give It To Me est né en 2019 de sa passion pour la musique en général et des chanteuses qui se déshabillent en particulier. Du blues au rap, en passant par le rock, la disco ou le punk, il existait déjà des histoires des femmes dans la musique. Mais cet essai illustré est d'un autre registre. C'est un regard lesbien et prolétaire sur toutes celles, toutes des icônes, qui ont augmenté notre réalité et nous ont donné des outils pour démolir l'ange du foyer. Elles ont changé le monde en posant des bombes entre nos oreilles et en incendiant nos pupilles. La Rata a écrit sur chacune d'entre elles avec de l'amour et les dessine comme des déesses qu'elles sont. Je chante avec ma chatte. C'est ce que répond Maria Jiménez à un chanteur macho qui venait de lui dire qu'elle chantait avec ses tripes. Maria Jiménez est une fille des quartiers, une Andalouse. Elle avait quitté Barcelone où elle faisait des ménages pour des riches au milieu des années 1960. Et c'est là que des PD, dans le texte, après l'avoir entendue chanter, lui ont offert une jupe, des chaussures et une fleur pour ses cheveux. Pourquoi ferais-tu le ménage alors que tu chantes comme tu chantes ? Gitane, flamenca et libre, à une époque où la liberté était un mirage en pleine dictature franquiste, Maria fit carrière en chantant et en faisant toujours comme il lui plaisait. On écoute La Vida de Maria Jiménez.
Cuántos días triste, cuántos días que nos llenan nuestras vidas. Mil desilusiones, mil inútiles pasiones de la vida. ¿Cuántas veces hemos dicho basta? Y renegado de la vida. Nunca agradecemos tantas cosas regaladas por la vida. ¡Ay, la vida! Muchas veces vamos tropezando por el miedo de la vida. y aunque existen tantas cosas malas que son parte de la vida, ¿qué otras cosas esperamos? ¿Qué es lo que pedimos a la vida? No, ya no es posible malgastar inútilmente tanta vida.
En 1924, Birmingham, Alabama, sur scène, d'un côté les musiciens, de l'autre, une réplique gigantesque du gramophone le plus utilisé à l'époque, le Victrola. Les musiciens jouent les premières notes, la voix de la chanteuse s'élève, le public la cherche des yeux, en vain. Et soudain, boum, les portes du Victrola s'ouvrent en grand et en sort, avec son collier de pièces d'or, ses bracelets dorés, les yeux maquillés de noir et ses lèvres en rouge, un grand sourire qui découvre ses dents en or, elle aussi, Gertrude Pradgett, plus connue sous le nom de Ma Rainey. À ses débuts, en 1910, Ma chante en duo avec Pa, l'homme qu'elle avait épousé. Elle le quitte et entreprend seule son voyage. Comme le dit Angela Davis dans Blues et Féminisme Noir, la liberté du peuple afro-américain commence d'abord par la possibilité de voyager. Ce voyage rend envisageable une nouvelle vie dans laquelle le domaine domestique, le mari, les enfants, la famille n'est pas obligatoirement le centre de l'existence d'une femme. Dans cette aventure, Ma va occuper l'espace public qui appartenait aux hommes blancs, rencontrer et choisir librement ses amants ou partenaires sexuels, ce qui était interdit durant des siècles d'esclavagisme. Le blues, continue Angela Davis, se différencie de la musique populaire de la même époque par l'imaginaire sexuel développé dans ses chansons concernant l'amour romantique. En 1928, Ma Rainey écrit « Provit on me », probablement un des premiers hymnes lesbiens de l'histoire de la musique populaire. On l'écoute de suite. Thank you.
bad women, cause I don't like no men. Wear my soul just like a fan. Talk to the girl just like any old man. Cause say I do it, ain't nobody called me. Don't got to prove it on me.
Toujours au début du XXe siècle, à Harlem, Lucille Bogan, dont les chansons explicites quant à ses expériences de travailleuse du sexe, ses relations avec des hommes violents, sa dépendance à l'alcool et son attirance pour d'autres femmes, lui valurent le titre de « Dirty Blues Musician ». En 1927, Lucille Bogan enregistre « Women Don't Need No Men » et 8 ans plus tard, la chanson devient « Biddy Woman's Blues ». Biddy, comme les initiales de « Bull Dyke ». Littéralement taureau Gwyn, une façon de se référer aux lesbiennes musiciennes aussi appelées butch ou garçonne. Biddy Woman Blues de Lucille Bogan sous le pseudo de Bessie Jackson. La prochaine chanteuse paye la caution de Ma Rainey, qui est emprisonnée pour avoir des relations avec d'autres femmes dans sa propre maison. Il s'agit de Bessie Smith. Elle paye la caution grâce à l'argent de la vente du titre « Down Earth Blues », sorti en 1923 et vendu à 780 000 exemplaires. Ces ventes permettront aussi à Columbia Records d'échapper à la faillite. Il faut savoir que les disques de blues à cette époque aux États-Unis étaient vendus avec l'étiquette « Wace Records », collé sur la pochette. Je rappelle aussi que les labels qui profitaient de l'argent de la vente, qui assurait la prospérité des 10 labels, étaient tenus par des hommes blancs. Bessie Smith commence à chanter à 8 ans dans les rues de Chattanooga, au Tennessee. Elle en a 18 quand elle rejoint le spectacle de Ma Rainey. Bessie comprend que les avancées technologiques, notamment la qualité des micros, permettaient de varier l'intensité du chant, de susurrer ou d'adoucir certaines phrases. Elle apporte alors un son plus sophistiqué et souple. Elle fait partie de The New Negro Movement, plus connu sous le nom de Harlem Renaissance, où écrivains, intellectuels, musiciens et artistes afro-américains autopubliaient leurs œuvres pour la dignité du peuple noir contre les lois ségrégationnistes et posèrent par là même les bases de la lutte pour les droits civiques des années 1950 et 1960. Bessie a un caractère extrême. Marrainée la vire de son train pour son entêtement à refuser les règles établies. Bessie Smith mettait autant de liberté dans sa musique que dans sa vie. Capable de se battre à coups de poing avec le premier homme qui la prenait de haut, Bessie Smith chante le sexe et le plaisir et elle a construit un des répertoires les plus fiers et libertaires. On écoute « Don't Hurt Blues » de Bessie Smith. « I want to be evil », déclare Eartha Kitt en 1953. Elle chante alors depuis 10 ans à Broadway, ce qui explique peut-être que son premier single semble davantage composé pour un spectacle musical que pour se hisser en tête des meilleures ventes. Dans cette chanson, la jeune femme est fatiguée d'être une gentille fille qui n'est jamais allée dans un bar boire une bière, n'a pas essayé la drogue et n'a jamais embrassé personne. Désormais, elle veut être indécente, cruelle, téméraire et terrifiante. Elle veut mentir et être aussi mesquine que possible. Elle veut boire de l'alcool et tout perdre. Mais elle ne perd rien du tout et la chanson lance sa carrière pour plus de 50 ans. Eartha Kitt rassemble des fonds pour la lutte contre le sida et s'exprime pour le droit au mariage pour tous. Elle fonde Kidville Young Foundation pour venir en aide aux jeunes en situation précaire à Los Angeles aux côtés d'organisations comme Rebel With A Cause. Invitée à la Maison Blanche par la première dame, Lady Bird Johnson, elle interrompt le président pendant son discours pour lui demander comment il pensait aider les parents qui ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants en raison de leur journée de travail aussi longue que peu rémunérée. Elle dira « Les enfants d'Amérique ne se rebellent pas sans raison. Ils ne deviennent pas hippies sans raison. Vous envoyez ce que ce pays a de meilleur se faire fusiller ou mutiler. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les enfants se rebellent et qu'ils fument de la marijuana. » Cette déclaration lui valut la résiliation de ses contrats de la part de ses agents. Et pendant plus de 10 ans, aucun promoteur ni producteur ne lui offrira de travail et fut qualifié par la CIA de nymphomane sadique. On écoute « I want to be evil ».
I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant. My glance is tender. But I'm noted most for my unspoiled agenda. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer. And I'm the person to whom they say, "You're sweet, my dear." The only etchings I've seen have been behind glass. And the closest I've been to a bar was at ballet class. Prim and proper, the girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure and not chaste. Life's something that seeks its level. I wanna go to the devil, I wanna be evil. I wanna spit tax. I wanna be evil and cheat at jacks. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean and throw my ties. I want to wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil. I wanna be mad. But more than that, I wanna be bad. I wanna be evil and trump an ace just to see my partner's face. I wanna be nasty. I wanna be cruel. I wanna be daring. I wanna shoot pool. And in the theater, I want to change my seat just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil. I wanna hurt flies. I wanna sing songs like the guy who cries. I wanna be horrid. I wanna drink booze. And whatever I've got, I am eager to lose. I wanna be evil. Little evil me. Just as mean and evil as I can be.
La décennie 1950 est considérée comme celle de l'avènement du rock'n'roll et aussi, et peut-être surtout, le moment où l'industrie du disque comprend comment faire beaucoup d'argent. Le rock'n'roll est la version blanche du rhythm and blues. Les premières vedettes blanches du rock'n'roll doivent tout aux pionniers noirs du rhythm and blues. De ces derniers, rares sont ceux qui ont profité du même confort économique que leur équivalent blanc, alors qu'elles avaient été les fondatrices d'un des styles de musique le plus rentable du siècle. Big Mama Thornton compose, enregistre et publie Hound Dog en 1952. Une des chansons qui synthétise tout l'héritage des chanteuses de blues, Hound Dog, chien de chasse, parle de sexe, de satisfaction et de frustration sexuelle, de promiscuité, d'autonomie, de liberté et de ce que Big Mama exige de ses relations sexo-affectives. Si un homme remue de la queue partout où il va, tel un chien affamé, elle n'a pas l'intention de continuer de le nourrir. Big Mama vend presque 1 million de ce disque en 1952. plus de 10 versions interprétées par divers chanteurs, chanteuses et musiciens, musiciennes. Mais le Hound Dog, le plus connu, est celui d'Elvis Presley, qui en vendra 10 millions d'exemplaires, tout en déformant en qualité d'homme blanc le sens original d'une chanson sur le pouvoir sexuel féminin. Big Mama Thornton a été systématiquement effacé des livres consacrés à Elvis Presley ou à la naissance du rock'n'roll. On écoute Hound Dog.
You ain't nothing but a hound dog.
Los Angeles, 1938. Une enfant de 14 ans met au monde Jamesetta Hawkins. Jamesetta grandit entre la messe du dimanche où elle chante le gospel et les nuits de fête de la maison de sa mère où elle écoute, chante et danse sur Billie Holiday. À 14 ans, elle devient Etta James. 2 ans plus tard, elle sort sa première chanson, The Wallflower, dont le titre original était Wall With Me and We. Mais le staff de Modern Records avait jugé risqué de publier un titre aussi explicite, Roll voulant dire baiser, baise avec moi Henry. Etta James a choisi de changer les paroles du méga succès de Hank Ballard, Work With Me Annie, afin de répondre à son sexisme. Le titre se classe directement numéro 1 sur les listes de rhythm and blues, mais est censuré sur les radios et sur les listes de vente de musique blanche. Georgia Gibbs reprend le morceau en éliminant tout contenu sexuel et devient Dance With Me and We. Et cette version ne sera pas mise à l'index. Gibbs vend 4 millions d'exemplaires et malgré qu'elle ait écrit les paroles, Etta James ne touchera pas un centime, étant mineure au moment de l'enregistrement. Tous les droits appartenaient au label. Au lieu de s'adresser à d'autres femmes pour aborder le problème qu'elles rencontrent dans leur relation, Etta James répond avec morgue et humour aux hommes qui méprisent les femmes en utilisant leurs propres chansons. Elle attendra presque 10 ans pour sortir son premier album, mais dans ce laps de temps, elle se, dé- Elle avance le look qui définira les années 1960. S'inspirant des prostituées et des drag queens, elle se décolore les cheveux à l'oxygéné, les rassemble en chignon sophistiqué, s'allonge les cils au charbon noir et maquille ses lèvres d'un rouge pute cinglant. Ce premier album, considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps, contient des classiques du blues, du jazz, du rock et même de la pop. Et aussi la chanson « A Sunday King of Love », l'une des chansons les plus reprises de l'histoire, par Stevie Wonder, Cyndi Lauper et même Beyoncé. Etta James traverse les années 60 en brûlant la chandelle par les deux bouts entre dealer et homme violent. Etta James, comme tant d'autres chanteuses noires, n'a jamais vraiment trouvé sa place. Dans les années 1970, elle se contente de survivre à la rue, à l'héroïne, au centre de désintox, où elle consent à être régulièrement envoyée afin d'éviter de faire de la prison pour détention de drogue. On écoute Roll With Me Anyway.
What do I have to do to make you love me too?
You got to roll with me, Henry.
All right, baby.
Roll with me, Henry.
Don't mean maybe.
Roll with me, Henry.
Any old time.
Roll with me, Henry.
Won't change my mind.
Roll with me, Henry.
All right.
You better roll.
Les années 1960 voient arriver les premiers girls groups, groupes composés exclusivement de femmes donc, et entre 1960 et 1964, plus de 750 girls groups se forment aux États-Unis et au Royaume-Uni. On peut citer Marvelettes, signé chez la Motown, The Shewells, The Supremes évidemment, et les toutes premières en 1958, The Chantels, qui furent le premier girls group de femmes noires à atteindre le Hot 100 du blanchissime Billboard. Et elles atteignent ce top avec le titre « Maybe », une formule pop parfaite. Chanson courte, avec une structure et des paroles simples et un refrain qui se répète. Les girls groups sont les premières influenceuses de l'histoire. D'un côté de l'Atlantique comme de l'autre, des milliers de teenagers s'habillent, se coiffent et bougent comme elles. Mais l'uniformité des looks annule toute expression de personnalité individuelle. Elles sont toutes là même, exactement ce que cherchaient les équipes de marketing des labels afin de vendre un maximum. Et dans l'une de ces équipes, le producteur Phil Spector était particulièrement doué pour duper les teenagers et par là même la faire à l'envers au girls group de son label. Il fera enregistrer le groupe The Blossom en studio et sortira le disque sous le nom des plus connus The Crystals, ne créditant aucun des deux groupes. Il fera la même avec les trois cousines du Spanish Harlem qui deviennent en 1963 The Ronettes, avec qui chante Veronica qui l'épouse. En 1968, il met fin à The Ronettes, liquide toutes leurs chansons et enferme Veronica avec ses enfants dans un hôtel particulier. Il abuse d'elle physiquement et moralement, cela durant 3 années. En 2023, il assassinera l'actrice Lana Clarkson. Veronica continuera de chanter avec George Harrison, Bruce Springsteen, B.B. King, The Misfits ou encore Patti Smith. Amy Winehouse s'en inspire. Elle emmène les chastes girl group des années 1950 faire un tour sans honte ni remords sur les grands boulevards du vice et de la gloire. On écoute Be My Baby de The Ronettes où la voix de Veronica formule un désir qui est plus proche de l'impératif que de la sage et soumise supplique pop traditionnelle, l'élevant jusqu'au rock effronté avec lequel Etta James répondait au petit macho 10 ans auparavant. En 1971, la salle Fillmore West, l'épicentre de la culture, de la contre-culture hippie, reçoit Aretha Franklin. Sitôt après, elle quitte Columbia Records pour Atlantic Records. Le label l'envoie enregistrer en Alabama. La légende raconte que les Indiens Yushi qui vivaient sur cette terre appelaient le fleuve la traversant Nunasae, le fleuve qui chante. Ces Indiens disaient que sur ces eaux vivaient des femmes qui chantaient pour les protéger. Quand l'eau était basse et calme, les chants étaient doux. Mais quand le fleuve enflait et s'agitait, les voix gonflaient et devenaient colériques. Aretha Franklin admirait Otis Redding et voulait enregistrer une reprise. Alors, elle réécrit une chanson de lui, passée inaperçue 2 ans auparavant. Et en fait non seulement un succès planétaire qui relance sa carrière, mais surtout l'hymne historique de la lutte pour les droits civiques afro-américains et du mouvement féministe à la fin des années 1960. Respect est la reprise la plus brillante de toute l'histoire de la musique. Les choristes sont ses sœurs, Caroline et Irma. Et Aretha entre avec elle dans un call response qui remplace le « Give it to me » de Otis Redding par un « Suck it to me » dont la diction n'est pas suffisamment claire pour qu'on puisse dire qu'il s'agit d'un « Donnez-moi ce respect » ou d'un « Lèche-moi ». Les arnaques et les extorsions systématiques que l'industrie du spectacle a imposées aux artistes noirs américains s'arrêtent ici. Aretha Franklin exige pleine liberté artistique sur toutes ses chansons, ne jamais devoir jouer devant un public ségrégué et recevoir le paiement de ses prestations avant de monter sur scène en cash, remis à la chanteuse en main propre parce qu'elle n'a besoin de personne. Pour rien, absolument rien. Respect. La dernière chanteuse nous permet la passerelle avec la seconde partie du mois prochain. C'est à Fillmore West, encore, que Big Brother and the Holding Company donnent leur premier concert avant de jouer au mythique Monterey Pop Festival en 1967. Big Brother and the Holding Company featuring Janis Joplin. Les hippies hallucinaient en la voyant car jamais ils n'avaient vu une chanteuse bouger comme ça, parler et chanter comme ça et être sapée de cette manière. Après leur deuxième disque, Janis se tire et forme Cosmic Blues Band et joue avec eux à Woodstock en 1969 avant de les quitter eux aussi pour monter le Full Tilt Boogie Band pour des lives au Festival Express ou au Stade de Toronto où elles chantent Try a Little Bit Harder. Tous ces festivals furent la première expérience radicale égalitaire et sexuellement libérée et libératrice de l'histoire de l'humanité. En à peine 4 ans, ils transformèrent la musique et la société des deux côtés de l'Atlantique. Pourtant, la foule qui se masse est majoritairement blanche. Et ce que cette foule n'avait jamais vu, c'est une blanche faire ce que Aretha Franklin, Nina Simone ou Etta James faisaient loin des festivals blancs. N'est-ce pas ça le rock ? Des musiciens blancs qui font la même chose que des musiciens noirs sous un autre nom. Sur l'affiche de cette révolution ne figurait qu'un musicien afro-américain et une chanteuse. Joplin est morte 16 jours après Jimi Hendrix. La mythologie du rock consacre Janis Joplin comme la meilleure chanteuse de la contre-culture. Son génie, son talent, sa voix incroyable, son énergie débordante, sa personnalité extraordinaire et l'ampleur de son succès, autant d'éléments impossibles à gérer pour la jeune femme autodestructrice, martyrisée et névrosée qu'elle était au fond. Elle ne put que sombrer dans l'alcool et les drogues avant de finir sa vie dans une chambre d'hôtel à Hollywood, alors qu'elle enregistrait Pearl, le meilleur album de sa vie, peut-être parce qu'il fut le dernier. Elle disait qu'être sur scène, c'était comme baiser avec tout le public. On écoute Try Just a Little Bit Harder de Janis Joplin. Ok, c'était la première partie de Give It To Me. On se retrouve le mois prochain pour la seconde partie. Merci d'être à l'écoute de Girls Power sur Radio Kipik. On se quitte avec le Summertime de Janis Joplin. Bye. Thank you.
Thank you.